Glan, il n'y a qu'une chaîne.
Fréquence Grand Champ.
Fréquence Grand Champ.
Sur FM 94.1
en DAB+,
ou sur
www.radiobus.fr.
Fréquence Grand Champ, la radio des écoles.
Une chaîne parmi les chaînes.
Toujours à l'écoute de Fréquence Grand Champ sur FM 94.1 et en DAB+,
nous accueillons Tiffany de la classe 11VG1.
Salut Tiffany.
Bonjour. Je crois que tu as réalisé une interview. Peux-tu nous dire quand, comment et pourquoi tu as réalisé cette interview?
Alors, en fait, je l'ai fait dans le cadre de mon option scolaire sur la la science robotique. Et on a décidé, en fait, d'aller faire des interviews au Salon de la Santé à Palexpo à Genève. Notre prof voulait faire un test au début. Du coup, il a choisi des interviews. Et on pouvait choisir différents métiers sur la santé et sur la police et tout ça. Du coup, moi, j'ai pris la police scientifique et... j'ai interviewé des personnes sur la police scientifique.
Vous aimez Esprit Criminel, les experts à Miami ou section de recherche? Alors vous allez découvrir avec nous les coulisses de la police scientifique. Maintenant, nous allons commencer notre enquête en interrogeant Madame Lydie Samy, experte scientifique.
Il faut que la police scientifique aille sur les lieux. Et puis un procureur doit être au courant et puis mandate la police scientifique pour aller sur les lieux.
D'accord. Quel est votre rôle dans l'enquête?
Alors, moi j'interviens pour les prélèvements ADN, mais après en tant que police scientifique, son rôle, ça va être de faire une fixation des lieux, c'est-à-dire qu'elle va devoir photographier la scène de crime, ne pas la détruire, et puis prélever les traces quand elle peut directement sur les lieux, ou alors prélever les objets et après elle les emmène en laboratoire. Donc après là, elle va faire les différentes recherches de traces, et moi en tant qu'expert scientifique, on reçoit toutes les traces du canton Romand pour l'ADN.
Quel matériel utilisez-vous?
Alors le matériel, la police scientifique, elle utilise surtout des appareils d'imagerie. Donc ça va être les appareils photo, ça va tout ce qui est les différentes lumières avec les différentes longueurs d'onde pour mettre en évidence les différentes traces déjà sur les scènes de crime. Ensuite, en fonction du type de traces qu'elle va prélever, elle va utiliser un matériel différent. Donc pour les traces ADN, ça va être un espèce de coton généralement. Ça c'est le plus courant. Pour les traces digitales sur les scènes de crime, ça va être alors le plus connu c'est la poudre noire. Après il y a différents types et puis si le support est noir, on va prendre une poudre blanche ou rose. Enfin voilà. Et les traces de semelle, ça va principalement être les lumières. Et puis en fonction, ça va être les moulages aussi. Si c'est dans la boue, on va faire un moulage pour pouvoir ramener la trace de semelle en laboratoire.
Est-ce dur psychologiquement de faire ce travail?
Alors c'est un peu dur de répondre à cette question. Il y a beaucoup de pression. Ça, en police scientifique, il y a quand même pas mal de pression. Mais à force de faire des stages, on sait assez rapidement si oui ou non on est fait pour. Donc après, ça dépend de la sensibilité de chacun.
Avez-vous des cellules psychologiques à votre disposition?
Alors il y en a. Il y a des cellules psychologiques. Après, c'est plus les victimes, quand elles sont examinées par un médecin légiste, on peut les renvoyer vers des psychologues ou des cellules en particulier. Mais là, j'avoue que je ne me prononce pas trop non plus.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre métier?
Ma première scène de crime, avec mon premier corps. Voilà.
Comment déterminez-vous l'heure de la mort?
Alors, l'heure de la mort, le plus connu, c'est la température du corps. Et en fonction de la température ambiante et les conditions dans lesquelles on a retrouvé le corps, on a certains signes qui permettent de donner un intervalle de temps de la mort. Après, si plus le corps est décomposé, plus après on va arriver sur l'entomologie, donc avec les insectes. Et puis, il y a différents seuils, donc la rigidité cadavérique qui donne aussi un seuil au niveau du temps. Et puis, une fois que les rigidités et les lividités cadavériques, donc voilà, c'est différents signes qu'on utilise.
Quelle étude devez-vous suivre pour faire ce métier?
Alors, pour faire police scientifique, il y a plusieurs filières. Alors soit là en Suisse, il y a l'école des sciences criminelles. Après, ça permet peut-être d'être inspecteur de police. Il y a également l'autre filière de passer par l'école de police et puis monter en grade et puis demander à faire de la police scientifique. C'est les deux voies principales. Et puis après, en fonction des spécialités, médecin légiste, ça va être médecine. Et puis une spécialité en médecine légale. Moi, expert ADN, en tout cas là dans l'ADN, on a différents parcours. On peut venir de biologie, on peut avoir fait des biostats, on peut avoir fait de la génétique des populations, on peut avoir fait l'école des sciences criminelles. Là, il y a pas mal, il y a vraiment, c'est large.
Travaillez-vous en collaboration avec les pays étrangers ?
Alors surtout quand on sait que le cas est lié à d'autres cas qui ont eu lieu dans des pays qui sont... parce que la Suisse finalement elle est au milieu de l'Europe, donc on a souvent à faire des connexions avec les pays étrangers.
Nous nous retrouvons maintenant avec Kim Viscott, médecin légiste. Comment déterminez-vous l'heure de la mort ?
Alors pour nous, on a plusieurs critères pour déterminer l'heure de la mort. Ce qui est important pour le médecin légiste, hein, parce que moi je suis médecin légiste, c'est de pouvoir se déplacer sur place au moment du décès. Typiquement, vous avez une scène de crime, hein, d'accord ? Quand un cadavre il arrive chez nous et puis qu'il a déjà été mis au frigo, on n'arrive plus à déterminer l'heure de la mort. Donc en fait, c'est quand on se déplace, hein, qu'on vient avec notre petite mallette. Et là-dessus, on va faire un certain nombre d'examens au niveau du cadavre. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la température du corps du cadavre par rapport à la température extérieure. Ce qu'on peut imaginer, c'est que forcément, s'il fait très froid dehors, le corps, il va se refroidir un petit peu plus rapidement que s'il fait chaud. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est qu'on va regarder des indices au niveau du corps déjà. La première chose qui apparaît sur un corps décédé, à part la température qui va commencer à diminuer petit à petit, c'est ce qu'on appelle des lividités cadavériques. En gros, ça, c'est des rougeurs, si vous voulez, qui apparaissent au niveau du corps dans les parties qui touchent le sol. Il a sa tête par terre, il est couché sur le ventre, et puis ce qui se passe, c'est qu'avec l'effet de la gravité, en fait, le sang il va stagner dans les parties qui sont au contact du sol, tout simplement parce que ça pèse plus lourd et donc ça tombe là-dessus. Et puis, vu que le corps est mort, en fait, et qu'il n'y a pas encore une circulation qui tourne et puis qui permet au sang de continuer à bouger, eh ben, il y a une partie, si vous voulez, des globules rouges qui va se fragmenter et puis qui va venir tacher la peau. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des lividités cadavérique. Et puis les lividités cadavériques, il y a toute une partie, les 6 premières heures, où elles disparaissent complètement quand on les regarde et quand on appuie dessus. Et puis après, de 6 à 12 heures et à plus que 12 heures, en fait, ces lividités cadavériques, elles se fixent. Donc ça, ça va être aussi, si vous voulez, une marge de manœuvre pour déterminer l'heure du décès. Et puis la dernière chose, c'est que le corps d'un mort, il devient rigide au bout d'un moment. Il est tout dur, il est tout contracté. Et puis, en fonction aussi des rigidités, ça, c'est ce qui peut nous indiquer pour...
Merci de votre écoute et affaire à suivre.